Vous êtes avec Radio SBS en français.
Je suis au téléphone avec Nico et Sarah, qui sont propriétaires du café Holly Belly à Paris. Bonjour.
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 Votre café s'inspire du type de café restaurant qu'on trouve en Australie, particulièrement à Melbourne pour le brunch. Qu'est-ce que ça veut dire?
Ben en fait, donc, ça veut dire que Sarah et moi, on a habité pas mal d'années à Melbourne en Australie. Sarah, elle était en cuisine et moi, j'étais en salle et au bar. Et du coup, quand on a terminé de vivre à Melbourne, ben, on est rentré à Paris et on n'arrivait pas à retrouver ce genre de café à Paris. Et on a pensé qu'on pouvait amener notre savoir-faire et ce qu'on avait appris là-bas dans la capitale. Et du coup, ben, voilà, maintenant, ça fait depuis 3 ans que Sarah cuisine et moi, je suis en salle. Et donc, on a tout construit sur l'influence de Melbourne.
Voilà, donc on a construit notre menu autour notamment du eggs and sides, donc les œufs et les accompagnements qui sont typiques du petit déjeuner de Melbourne.
Justement, parlez-moi plus en détail de votre menu. Si j'arrive chez Holly Belly ce matin, qu'est-ce que je peux manger?
Alors, du coup, on est très basé sur le petit déjeuner. Donc, le petit déjeuner commence à 9h. Hein, on ne le fait pas commencer plus tôt parce qu'à Paris, les gens se lèvent un peu plus tard qu'à Melbourne. Et du coup, tu peux manger des eggs and sides, donc les œufs pochés au plat ou brouillés avec des accompagnements, bacon, hash browns, baked beans, champignons sautés, un sausage patty à base de fenouil et porc qu'on fait maison. Et puis, on a aussi une sélection de pancakes, soit sucrés, soit salés. Donc, les pancakes salés, c'est avec œufs au plat, bacon et bourbon butter. Et les pancakes sucrés, c'est avec fruits de saison, noisettes du Piémont, sirop d'érable et fruits frais de saison. Donc, on construit toute notre carte en fonction de la saison. Donc, on change les sides en fonction du mois, de l'année, et des légumes et les fruits dispo.
Donc, avec une inspiration un peu australienne, mais avec des produits qui sont typiquement français.
Exactement.
Puis j'ai cru voir que votre café était très, très populaire. Je regardais en ligne s'il y a vraiment beaucoup de critiques, de commentaires élogieux. Est-ce que vous vous attendiez à ce que ça ait autant de succès?
Ben, honnêtement, non, pas vraiment. Ça veut dire que quand on a commencé à se poser pour construire le projet, on avait fait des projections financières, etc. Et on était vraiment en dessous de... On savait que ça marcherait et on pensait qu'il y aurait vraiment un intérêt parce qu'il n'y a pas vraiment une offre comme ça à Paris, vraiment comme disait Sarah, de pouvoir manger dès 9h du matin. Du salé, mais on pensait que ça serait un petit café tranquille. Et en fait, rapidement, vu que c'est que des produits frais, que c'est tout cuisiné sur place, que c'est pas très très cher, on a commencé à attirer un peu de monde. Et puis les gens ont passé le mot à leurs amis et puis un petit peu de social media, etc. Et c'est vrai que là, depuis 2013, on a vraiment vu une grande grande croissance. Et puis là, on est vraiment plein tout le temps et ça fait plaisir de voir des gens qui viennent de partout. Et je pense que le message est bien passé, mais c'est vrai qu'on s'y attendait pas du tout.
Pour le café, vous servez les mêmes types de café qu'ici, les long black, les flat white?
Exactement, ça c'est on a repris un peu le menu classique donc d'un café melbournien. On a plusieurs déclinaisons avec du lait, sans lait, donc on a le flat white, cappuccino, latte, piccolo. Après on a l'espresso pur, le long black comme tu disais, deux shots sur un petit peu d'eau chaude. Et on a aussi ce qui vend beaucoup, et ça c'est aussi une surprise et une bonne surprise, on vend aussi beaucoup de filter coffee, café filtre, donc juste du café juste typiquement filtré avec plusieurs origines, et ça vend très très bien.
Est-ce que ce qu'on appelle un peu ici la culture du café, est-ce que ça commence à prendre plus de place à Paris, en France?
Ça commence à prendre plus de place. C'est vrai, quand on est rentré en 2013, il y avait déjà quelques coffee shops, mais vraiment pas beaucoup. Et là, on a vu une accélération sur la dernière année. Là, beaucoup, beaucoup de coffee shops qui ouvrent. Je pense que les gens sont gourmands de ce genre d'endroit. Un endroit pour boire un bon café, où on peut expliquer un petit peu les origines et les différentes saveurs en fonction d'où viennent les cafés. Et il y a beaucoup de gens qui travaillent vers cette éducation. Et je pense que tout doucement... les gens commencent à y prendre goût. Et c'est vrai que là, je pense qu'on est en train vraiment de s'accélérer. Comme dans les autres grandes villes, on commence vraiment à rattraper tout le monde.
Oui, et puis il faut savoir aussi qu'il y a quand même beaucoup d'expatriés et de touristes à Paris. Donc c'est vrai que quand ils venaient à Paris il y a quelques années, ils ne savaient pas où trouver le bon café parce qu'il n'y en avait juste pas. Et et là que ça se développe, c'est plus facile pour eux aussi de retrouver le goût du bon café qu'ils ont chez eux. Et du coup, ça fait changer le goût des Parisiens aussi en matière de café, et de ne pas avoir le petit café brûlé du bistrot classique, quoi.
Est-ce que vous avez beaucoup d'Australiens, justement, qui viennent chez vous en espérant avoir un excellent café comme à la maison?
Ouais, quand même, on a pas mal d'Australiens qui viennent parce que, bon, c'est vrai que nous, on a quand même gardé bon contact avec les gens avec qui on travaillait en Australie. Donc, ils ont suivi le projet et je pense qu'ils n'hésitent pas à faire passer le mot. Voilà, quand les gens nous disent qu'ils vont à Paris, là, faut passer à l'Ibélie, etc. Donc, on a pas mal de gens d'Australiens qui nous envoient d'autres Australiens. Et puis, c'est vrai que les gens qui sont gourmands de bon café et gourmands de bon petit déjeuner, souvent, ils arrivent rapidement à trouver notre adresse. Et voilà, Australiens, Canadiens, Américains, beaucoup de Français aussi. Puis après, un petit peu de Japonais. On a vraiment des gens qui viennent de partout. Des fois, même nous, on est surpris de voir des gens qui viennent vraiment de très, très loin, qui ont trouvé notre tout petit café à Paris.
Vous avez fait une expérience vraiment intéressante au début de l'année, un staff swap. Racontez-moi qu'est-ce que c'est puis comment ça s'est passé.
Bah, du coup, le staff swap, c'est venu de l'idée. En fait, Sarah et moi, on a travaillé donc dans la restauration et on a souvent vu qu'il y avait un petit décalage entre la cuisine et la salle. Il y avait souvent des manques de compréhension, des frustrations. Et en fait, c'est des jobs qui sont tellement différents que voilà, ça crée forcément des petites frictions. Et donc, en plus, c'est marrant parce que nous, on est un couple dans le business, mais aussi dans la vie. Et même si on est tout le temps ensemble et qu'on comprend vraiment le travail l'un de l'autre, donc Sarah en cuisine et moi en salle, il y avait quand même encore des frustrations. Et on s'est souvent dit que si un jour on devenait propriétaire et donc employeur, il fallait vraiment retrouver une solution pour essayer de réduire au minimum ces clashs. Et on s'est dit que la meilleure façon pour que chacun comprenne le travail de l'autre, c'était vraiment qu'en fait tout le monde fasse un jour le travail de l'autre. Donc on a organisé un truc à grande échelle où la cuisine a été formée en salle et la salle a été formée en cuisine pendant environ un mois. Et pendant une journée, dans des conditions aussi réelles que possible, la salle était en cuisine et la cuisine en salle.
Et comment ça s'est passé cette journée-là?
C'était très révélateur. On s'attendait à des choses et ce qui s'est passé était encore plus impressionnant. C'est vrai que tout le monde s'est vraiment rendu compte du travail de l'autre. On avait en plus des vrais clients. C'était en situation réelle. Donc, comme on est un café qui brasse beaucoup de monde, c'est déjà difficile, moi en cuisine et Nico en salle, de gérer tous ces clients toute la journée. Donc là, d'échanger les rôles et d'être dans une situation où on n'est pas très à l'aise, c'était encore plus difficile. Mais c'était très intéressant. En tout cas, je pense que tout le monde en a retiré beaucoup. Et même si c'est très dur et que tout le monde était très content de retrouver son rôle le lendemain, ça a vraiment marché en tout cas, et notre volonté de développer l'empathie envers de la salle envers la cuisine et la cuisine en salle a vraiment fonctionné, je pense.
Pour terminer, si nos auditeurs ont envie de manger chez Olibelli, où vous êtes situé puis comment on peut vous trouver?
Alors Olibelli, c'est facile, donc c'est dans le 10e arrondissement de Paris, 19 rue Lucien Santé. C'est très proche de la grande place de la République. Il y a beaucoup de métros qui vont place de la République et après, c'est vraiment 5 minutes à pied. La vitrine est assez étroite, donc il faut faire attention quand on passe devant. Mais aussi, la bonne chose à savoir, c'est qu'on est en ce moment en train d'ouvrir un nouveau Olibelli dans la même rue, toujours rue Lucien Santé, au 5. Et en fait, le café sera beaucoup plus grand parce que là, en ce moment, il fait 46 places. Et comme tu disais tout à l'heure, il y a un peu des fois la queue, etc. Donc là, on a eu la chance de pouvoir acquérir un local plus grand où il y aura 105 places et on va servir vraiment toujours le même menu, la même qualité, mais voilà, il y aura de la place pour tout le monde et ça, c'est au 5 de la rue. Donc à partir du mois d'avril prochain, au 5 et au 19, il y aura Olibelli.
Très bonne nouvelle, ça. Merci beaucoup, Nico, et merci, Sarah.
Merci beaucoup.
Merci à toi.